Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour cette dernière prestation de ce vendredi pour les Utopiales 2013. Hein, c'est bien ça ?
Bonsoir.
Donc nous allons passer la soirée en compagnie d'une bande de sacrés garnements dont je ne présente plus le premier qui est assis à ma gauche. Et je suis particulièrement heureux de vous présenter ce jeune garnement qui fait son retour aux Utopiales, en fait, parce que l'histoire de ce soir, en fait, a commencé en 2006, ici même, lorsqu'Alexis Briclot était invité par le festival pour recevoir le prix Artefact, donc du meilleur illustrateur de l'année. Et il se trouve qu'au bar où Dieu sait où, il rencontre un auteur de science-fiction que l'on ne présente plus, qui sera avec nous sur scène tout à l'heure, c'est-à-dire Alain Damasio. Et donc la rencontre de ces deux univers, de ces deux planétoïdes chargés.
Il n'y a pas que ça, il y a d'autres paramètres. Bonsoir à tous, j'étais pas sûr que mon micro fonctionnait. Effectivement, c'est une sacrée histoire. Donc c'est le sujet ce soir, Remember Me, le jeu vidéo avec notre studio Dontnod. Effectivement, il y a une partie des rencontres, on va dire, séminales extrêmement importantes qui ont eu lieu ici même avec Alain, qui est peut-être dans la salle ou qui est peut-être au bar ou je ne sais pas, qui nous rejoindra tout à l'heure. Avec également Jean-Max Maurice et puis Stéphane Beauverger pour discuter un petit peu de bien plus à propos du jeu et la jeunesse du studio.
Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on est parti pour passer toute la soirée ensemble. Alors n'hésitez pas à prendre votre petit sandwich et votre petite bière. On va commencer par une heure de prestation un petit peu technique avec un dessin en speed painting de la part d'Alexis. Alors, il va un petit peu nous en parler en même temps, mais on va essayer
Alors,
de ne pas l'embêter.
Je vais pas trop dialoguer, trop en fait, souvent. Histoire d'essayer d'assurer un minimum, comment dire, faire une image qui est à peu près un minimum de gueule. C'est extrêmement délicat. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas à la maison, je n'ai pas mes raccourcis, ce n'est pas ma machine, ce n'est pas ma tablette. Donc voilà, j'ai tous mes repères à trouver. Il est 19h10, il faudrait que j'ai fini à 20h, donc il me reste 50 minutes pour faire un truc qui soit à peu près, qui tienne à peu près la route. Au niveau de la thématique, je vais essayer de me baser sur un chara-design, un personnage féminin, un petit peu dans la lignée d'autres choses que j'ai pu faire avant. J'ai un projet de statue, là, un petit univers à créer. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais essayer de faire un truc plaisant à l'œil.
Voilà, donc l'idée, c'est qu'il va dessiner. Je vais passer parmi vous, parce que si vous avez des questions, tant qu'à faire, autant qu'on lui pose, et puis on verra bien s'il répond ou pas. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, parce que nous, on vous entend à max. Et donc ensuite, il y aura donc une présentation de l'aventure Dontnod, en fait, du studio qui a créé donc le monument Remember Me. Et ensuite, on aura une discussion à bâton rompu avec les créateurs, c'est-à-dire Alain Damasio, Stéphane Beauverger, Jean-Max et tout le reste de l'équipe, c'est-à-dire Alexis Briclot. Donc, let's go pour un petit dessin. Et puis peut-être que tu peux quand même nous commenter de temps en temps pour
essayer.
Nous faire plaisir. Si vous avez envie de l'embêter, n'hésitez pas à lever la main, je vous passe le micro, vous lui parlez de ce que vous voulez, histoire de voir s'il arrive à rester concentré. Ah, il y aura une question, mais ne lève pas le stylet, hein.
Bonjour, c'est juste pour savoir si vous organisez à Dontnod des concours de speed painting, par exemple sur les pauses du midi ou des choses comme ça.
J'ai pas compris la question, vous voulez concours ?
Non, des concours ou juste des espèces de challenges entre personnes à Dontnod le midi si vous faites des speed painting ou des choses comme ça. Parce que je crois que ça se passe, par exemple, il y en a à Splash Damage qui organise ça ou deux.
Bon. Je te dirais que non, c'est pas vraiment un truc, enfin pas la dimension compétition. Après, au sein des artistes, à l'heure actuelle, on a Michel Corr, le second, l'autre directeur artistique. On a 4 concept artistes, si je ne me trompe pas. Non, j'en ai peut-être un en trop. 1, 2, 3, 4, 6, 4. Après, non, il n'y a pas cet esprit-là. Il y a beaucoup d'émulation. Il y a énormément d'émulation, mais qui ne passe pas forcément par genre de défi. je serais sans doute plus bavard l'heure et demie suivante. Et,
Alors on parlera un petit peu plus effectivement du fonctionnement du studio interne et comment exactement on arrive à faire un jeu vidéo quand on a une bande de jeunes créateurs français qui s'attaquent à un gros morceau. Alors pour ceux qui étaient là hier soir, effectivement, on a eu aussi une heure avec Denis Bajram pour travailler sur Photoshop. Et tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a vraiment deux façons de travailler sur ce logiciel. Enfin, en tous les cas, entre hier et aujourd'hui, il y a manifestement vraiment des différences d'approche au niveau de la conception du dessin. Autant Denis travaille, va partir avec un trait directement. Et là, manifestement, tu travailles plus proche que... plus dans la vision d'un sculpteur qui va travailler en masse.
Ouais, je vais sans doute revenir après avec un tracé là pour consolider un peu mon truc, mais ma composition. Mais là, effectivement, je démarre plus avec des grosses masses. Donc en fait, c'est pas très précis, c'est un peu flou.
Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, là t'es parti d'une idée de croquis en fait, mais sans apport photographique, alors qu'il y a quand même régulièrement de l'apport photo pour gagner un petit peu de temps, j'imagine.
Gagner un petit peu de temps, ça dépend aussi des travaux à faire. Enfin, je sais pas comment dire. Moi je me dis qu'à chaque fois, en fait, en fonction de la commande de la finalité, bon, on peut utiliser une technique différente, essayer d'utiliser la technique soit le plus en adéquation. Jeux vidéo, justement, c'est pas l'idée. Enfin, l'idée c'est de fournir des. On en parlera après là. Maximum d'informations au reste de l'équipe, les modeleurs 3D, les artistes, animateurs, programmeurs. Donc l'idée, c'est pas forcément c'est de faire des belles pièces, mais c'est pas de faire une toile de maître ou une image impressionniste confuse. Bon, bah si, en fait, tu me parlais de traits, là, je vais essayer de revenir avec un tout petit peu plus de structure.
Faut pas désespérer, levez la main et je vous vois de temps en temps.
Je voudrais savoir, vous travaillez uniquement sur du 2D ou vous faites aussi des modèles 3D ?
Si je travaille sur de la 3D, moi ?
Oui.
J'en rêverais en fait, mais j'ai jamais eu trop le temps de me mettre à ZBrush ou de pousser plus loin. Donc en fait, je suis toujours plutôt, en tout cas en termes de réalisation, encore sur la 2D, on va dire pure et dure. Et après, dans le cadre du jeu vidéo, bah forcément, comme je disais avant, la 2D, c'est pas la finalité. C'est juste une étape, en fait, pour nourrir la machine. Ensuite, pour des modeleurs 3D personnages ou décors. Donc, il y a forcément un travail d'interaction, d'échange.
Et après, pour les interactions, on parlera plutôt dans la deuxième ou troisième heure. Savoir comment ça
J'essaie
se passe.
J'essaye de parler un petit peu.
Oui, non, mais c'est bien. On voit que tu fais un effort. Tout le monde apprécie.
Parce que j'étais venu une année ici, j'avais fait une démonstration. Et j'avais dialogué avec les gens pendant une heure, pendant 50 minutes, et il me restait 10 minutes. Et bon, après, je ne sais pas comment dire. Peut-être que la discussion peut être plus intéressante que le dessin. Peut-être qu'effectivement, c'est pas super important Et je me suis retrouvé super embarrassé, je me suis tourné vers l'écran, en fait j'ai vu que j'avais mis deux trois coups de brosse qui rimaient à rien, qui représentaient absolument rien, et je me suis dit en 10 minutes il fallait que je fasse un truc, une image qui a un minimum d'intérêt plastique. Vas-y, raconte des trucs, Gilles.
Je sais pas, t'écoutes quoi comme musique quand tu bosses, par exemple?
Ah bah non, parce que là, tu me fais parler, moi. Ça dépend. Ça dépend du sujet, de la phase aussi de travail dans laquelle je suis. C'est-à-dire que, je sais pas, arrive un moment sur certaines images, en fait, où ça dépend encore une fois de la commande, mais je peux me retrouver dans un cas de figure où... Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, arrête de ramer, il y a encore une autre question, c'est bon. T'es sauvé.
Lorsque vous cherchez à reproduire une ambiance ou un décor, vous commencez par vous baser sur du réel ou vous commencez directement à faire des croquis ou ce genre de choses?
Ben, ça dépend, en fait. Je pense que c'est essentiel, si c'est quelque chose qui a trait à la réalité, d'aller déjà dans un premier temps en fait rechercher un maximum de documentation, ensuite de l'intégrer pour en faire quelque chose de neuf. Je dirais un truc bateau, là, le machin que je sors de temps en temps, c'est qu'il n'y a rien qui se crée ex nihilo. C'est impossible, quel que soit le créateur, tout ça. Et en fait, dans n'importe quelle création, en général, c'est plutôt la somme et le réarrangement. Même si c'est de la création, on va dire fantastique, fantasy ou quoi que ce soit, c'est plus en fait l'art de réagencer en fait différentes sources qui existent précédemment. Et du coup, je pense que ça, tout passe par un gros travail de documentation, le fait d'être curieux. Je ne sais pas comment dire. On parlait tout à l'heure, j'avais des questions à une conférence cet après-midi là sur... comment ça s'appelle ? Les monstres, les créatures, tout ça. Et bref, sans refaire le débat en question. Bah, par exemple, pour créer une créature qui soit plausible, il y a tout un travail. En fait, même si on lui met 6 bras, 6 jambes... pour la rendre intéressante, en tout cas en termes de jeu vidéo, il y a une approche, enfin moi j'aime beaucoup cette approche-là, c'est le fait de la rendre plausible, donc de réfléchir sur la structure, sur le squelette, sur l'anatomie, sur la musculation, sur la façon dont la créature en question peut se développer, afin de la rendre justement crédible et que ce soit pas un espèce de gribouillis infâme où c'est juste un agglomérat là de plein de pseudo-idées. Et du coup, il y a aussi le paramètre, bah, plus on emmagasine... d'informations au niveau, je dirais, culturel, bah plus on est riche et à même en fait d'apporter des solutions intéressantes à un nouveau problème visuel, design ou bon voilà. J'ai...
Et tu pars souvent en masse en valeur de gris?
Ouais, j'aime bien, ça m'arrive. Mais en fait, ça dépend de l'outil aussi. Si j'avais une Cintiq, donc une tablette en fait sur laquelle je pourrais dessiner. Comment dire, à la main, je pense que j'aurais plus une approche de trait, comme je fais dans mes crobards, donc vraiment plus dessiné. Là, après, la tablette, donc c'est une toute petite tablette comme ça, elle est un petit peu limitée, il y a mon écran également qui est un petit peu petit, et du coup, je peux difficilement avoir un trait super net. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, tout va bien. Par exemple, si je trace un rond à main levée, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, ça tient la route à peu près, il n'est pas super super rond. Disons, par exemple, j'ai pas la même assurance que je l'ai. La même assurance, pardon, que j'aurais avec un crayon dans un carnet ou sur un support dessiné.
Oui, tu continues beaucoup à faire des croquis dans tes carnets, même si tu travailles en numérique.
J'essaye, ouais, ou ça se fait, on va dire, naturellement. Mais tu en sais quelque chose?
Oui, il y a quelques carnets, en fait. L'année passée, tu as fait une exposition à la Maison d'ailleurs, en Suisse, en fait, où il y avait une grosse exposition de tes carnets originaux.
Effectivement, le commissaire d'exposition était Gilles Francescano.
Et Alexis Briclot. Donc, même s'il fait du vélo et ne passe pas son temps dans les transports en commun, il arrive quand même à couvrir des millions de pages de carnets de croquis. Des questions, n'hésitez pas. Vous avez vu, il arrive à faire les deux en même temps. Donc... Et alors, quand on est à la base de... C'est peut-être une question qui ferait partie de la deuxième partie, mais quand on est à la base de la création d'un studio, on arrive encore à dessiner ou après on fait juste... on tient juste le rythme du tambour pour fouetter ses sbires.
Bah, c'est dur, effectivement, parce que, enfin, pour moi, en tout cas, ça dépasse le cadre de seulement faire des dessins. Et sur une production, tu peux pas passer, je sais pas, 5 jours sur un problème, une problématique de chara-design, alors qu'en fait, il y a la globalité, l'ensemble, le ton du jeu, l'univers, bah, toutes les interactions avec le game design, la partie écriture, tous les autres corps de métier. Donc, c'est extrêmement délicat. Et là, je dirais que ça recoupe plus avec le travail, on va dire, de direction artistique, où c'est donner la direction. Donc, il y a donner la direction par l'exemple, produire soi-même, mais également par juste le partage d'idées, le dialogue, avec toute une équipe. Là, je pense à l'autre directeur artistique, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, Michel Corr. Bah, tu vois, la semaine dernière, il me disait juste qu'il aimerait bien redessiner un petit peu plus. Et toute la semaine, en fait, il était en réunion, en meeting, en échange avec le reste de l'équipe. Mais c'est aussi une autre façon de partager, une autre façon de créer. Et elle est même essentielle dans le cadre d'une production, d'un travail d'équipe. Travail collaboratif.
Au niveau du character design, vous faites combien de dessins d'un personnage avant de, enfin pas avant de le valider, mais de base?
Ça dépend vraiment. Je pense que c'est une bonne chose sur des grosses productions, en fait, d'envisager différentes approches avant de se stabiliser sur une. C'est-à-dire, même si on a un bon feeling, moi ça peut m'arriver, enfin j'aime bien aussi ce côté-là, c'est de réagir par rapport à un brief, d'intégrer en fait toutes les informations et après fonctionner avec un mélange de réflexion et puis on va dire d'instinct. Et des fois il y a des choses très fortes en fait qui viennent de là, d'autres fois il y a des mauvaises pistes, d'autres fois on pense avoir une très bonne piste et c'est intéressant d'en essayer d'autres afin de tout envisager quoi. D'autres fois il y a ce côté laborieux où ça m'est déjà arrivé en fait sur des productions, c'était sur Splinter Cell, le fait de commencer avec un premier concept que je sentais très bien qui répondait au brief, ensuite d'être reparti, d'avoir fourni, et c'était intéressant justement, mais peut-être je sais pas, une quinzaine de variations plus ou moins poussées, certaines qui n'avaient rien à voir, pour au final revenir au concept original, avec malgré tout peut-être quelques petites modifications justement qui étaient nées de toutes les itérations, les recherches alternatives. Et après, ça dépend aussi, ça dépend de l'importance du personnage. C'est-à-dire qu'après, on peut résumer aussi et revenir à de la prod pure et dure. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer autant de temps en fait, sur un personnage d'arrière-plan que sur un personnage secondaire ou le personnage principal qui est lui partie de la, comment dire, de la ligne graphique, on va dire, du jeu. C'est presque la, enfin, comment dire, le personnage principal, c'est une icône qui fait partie de la signature visuelle. Je viens de me répéter là. Qui fait partie de la ligne graphique de communication du jeu, c'est un élément essentiel, c'est peut-être le personnage qu'on va voir sur tous les visuels clés en fait de communication, donc ça vaut le coup d'y passer beaucoup plus de temps et de vraiment réfléchir à tout pour le blinder au maximum. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Oui, on approfondira dans la deuxième partie de toute façon. En quelle année tu es passé du traditionnel au numérique?
Ça s'est fait graduellement, c'était plus ou moins cool. Bah, j'ai touché un petit peu pendant mes études à l'outil numérique, mais jamais de peinture digitale comme ça. Ensuite, j'ai commencé à travailler en illustration. J'ai commencé à utiliser de plus en plus l'outil numérique comme outil d'appoint, où en fait à l'origine, je scannais des dessins faits en traditionnel, donc avec les faces classiques pré-crayonnées ou crayonnées en petit, parfois un ancrage, enfin, où j'agrandis le dessin, je le détaille, table lumineuse, ou enfin il y a plusieurs techniques différentes, et je revenais avec la couleur en dessous, on va dire, comme une mise en couleur traditionnelle de bande dessinée. Et petit à petit, en fait, je me suis mis au tout digital, justement, avec cette espèce de variation, là, comme je fais là ou comme j'essaye de faire, le fait de travailler en fait en masse et plus seulement au trait.
Et au niveau du...
Mais on retrouve la même chose en fait dans la peinture classique avec différentes écoles, l'école picturale et puis l'école linéaire. Et là j'ai un trou, j'ose pas citer les peintres en question, parce que je vais faire un flop.
Et au niveau du travail de détail, en fait, puisque sur le concept en jeu vidéo, tu pousses certainement moins le détail que ce que tu fais par exemple sur les cartes Magic.
Ah bah non, des fois c'est l'inverse. Dans le travail de préconception, non, on n'a pas besoin des détails et tout, mais après, une fois qu'il faut nourrir les modeleurs, bah, c'est essentiel de résoudre un maximum de choses. Et, j'en parlerai tout à l'heure, justement, dans la deuxième partie, avec des visuels à l'appui, là, le fait de solutionner un maximum de points, que ce soit voilà, les choses qui ont trait à l'animation, le rigging, ce qu'on appelle le, comment dire, la mise en place du squelette à l'intérieur du mesh en 3D, et puis même le travail de modélisation en fait, du sculpteur 3D ensuite, où il a besoin, lui, de savoir bah, qu'est-ce qui se passe. Comment dire, il n'y a pas de zone d'imprécision. La différence entre un dessin 2D, là où on peut laisser des zones dans l'ombre, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qui sont suggérées. Là, le fait de passer à l'incarnation en 3D, la sculpture en 3D, on est obligé en fait, de tout concevoir. Le dessous du pied... le derrière de la tête. Combien de temps il me reste?
Habituellement, tu travailles sur quel type de matériel?
C'est-à-dire PC, tout ça?
Par exemple.
Je suis vraiment pas le mec qui court après la dernière techno, la dernière Cintiq ou le dernier Super Mato. Je devrais, en fait. J'ai pas mal de collègues qui se moquent un petit peu de moi avec ce petit côté pas old school, mais... c'est très vieux, mais je sais qu'à un moment, en fait, j'utilisais une bécane qui était mes comptes. Enfin, j'avais plein de potes qui pensaient que c'était. Que je travaillais sur du matériel super boosté. Et en fait, non, c'était un espèce de vieux dinosaure. Embarrassant. Moi, je travaille sur PC. Je saurais pas te dire ce qu'il y a dedans, mais il tourne bien. J'en ai deux, à la maison, au bureau.
Par exemple, une carte Magic te demande combien de temps d'exécution?
Ça dépend. Je dirais entre 2 et 5 jours. Ça dépend de la complexité, ça dépend s'il y a du décor, ça dépend si je le sens bien, ça dépend si je suis laborieux et que je reviens 40 fois sur la même chose parce que ça allait pas. Que se passe-t-il? Oh,
dans Photoshop, tu travailles avec tes propres brosses ou c'est toujours la même, par exemple?
Bah là, je les connais pas trop. J'ai pris un petit peu ce que j'avais en stock à la maison. Elles sont pas ordonnées. En général, il y a quelques brosses à moi. Il y a des brosses que j'ai récupérées aussi dans la nature. Et j'utilise pas forcément un arsenal. J'en ai plein, mais encore une fois, c'est pas la peine d'avoir. C'est pas le concours. C'est pas parce que t'en as 150 que tu vas faire du meilleur taf. ou que tu vas être plus efficace. Il faut juste les connaître, savoir un petit peu à quoi elles servent.
Quand vous faites une création comme celle-là, est-ce que vous savez exactement ce que ça va donner à la fin ou est-ce que vous improvisez un petit peu au fur et à mesure ?
Bah, j'ai une sorte de vision dans la tête. Là, j'avoue, c'est un tout petit peu flou là, par rapport à ce que je disais, le matos, le temps limité. J'essaie de ne pas prendre trop de risques. J'aurais préféré faire un format vertical. Là, je me retrouve avec un format horizontal.
Tu es en train de nous dire, quand tu bosses chez toi, il n'y a pas 200 bonhommes en train de te regarder, c'est ça ?
J'ai pas compris, en fait, pardon.
Quand tu es en train de bosser chez toi, tu veux dire que tu es plus tranquille ?
Exactement, j'ai pas le stress pareil. Mais ouais, ça dépend. Des fois, il y a une part un petit peu d'expérimentation où tu sais pas trop où tu vas. Ça peut être riche. Il y a des fois des petits accidents qui peuvent nourrir la machine et tu arrives à des trucs super intéressants. Mais en général, non, c'est un boulot de commande. C'est, j'ai une contrainte. Enfin, il y a une dimension, on va dire, technique. Et ça me paraît être difficile à expliquer ou en fait difficile parce que ça me semble simple. Mais il y a des espèces d'images qui arrivent en tête qui sont un petit peu floues, qui sont pas formalisées. Entre ce que j'ai en tête et le final, il y a forcément toujours pas mal de différences. Des fois, c'est plus ou moins bien réussi.
Et justement, à propos des commandes, il vous arrive d'avoir des demandes qui sont faites et qui vous êtes pas inspiré du tout, ou le dessin vous plaît pas, et comment vous faites, comment vous gérez ce genre de situation ?
C'est-à-dire le dessin, le truc au
ben,
final ?
Ce qu'on vous demande de faire, je sais pas, un monstre à six bras, et ben ça vous inspire pas du tout, vous avez pas envie de le faire, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Comment vous gérez ce genre de situation où,
Ben, ça m'arrivait très souvent. C'est juste la réalité, c'est le fait de faire un job, et puis voilà. Et parfois, c'est des clients super sympas, et on a envie de travailler avec eux, et puis en fait, voilà, la commande est artistiquement très limitée, mais il y a d'autres paramètres des fois qui jouent. D'autres fois, ça peut être un client avec qui il y a un échange en fait qui est très très limité et voilà, sans plus. Et pourtant, la commande en question est super riche et on peut s'éclater dessus. Après, voilà, ouais, ça s'inscrit dans un travail, c'est un job, c'est pas. Enfin, il y a une participation tout le bazar, mais il y a énormément de contraintes, à la deadline, il y a le fait d'être à la hauteur, soit comme tu dis, comme par rapport à ta question, là, le fait d'être confronté à une thématique en fait qui est pas forcément. Super, on va dire, plaisante ou sexy.
Oui, dans la deuxième partie de la soirée, tu nous expliqueras un petit peu plus comment ça se passe quand on travaille vraiment dans une
équipe jeux vidéo, de jeux c'est vidéo. Encore complètement
et,
différent.
Et parce c'est un peu moins, moins rock'n'roll que ce qui apparaît, que ce que l'on croit. Quoi.
Comment ?
C'est un peu moins rock'n'roll que ce que l'on croit.
Si, ça peut l'être grave, mais c'est pas du tout, je pense, par rapport à ce que les gens conçoivent. Enfin, je sais pas, que ce soit par rapport aux artistes. Ouais, il y a un cahier des charges énorme, quel que soit le jeu, quoi. Mais il y a un gros, gros boulot, on va dire, technique, quelque part, dans le sens où il y a des contraintes, il faut les intégrer, il faut répondre à ces contraintes-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, dans le grand public où, qui n'ont pas en tête, justement, tous les contraintes en question. Contrainte de prod, on peut pas faire ça parce que ça coûte trop cher. Contrainte de, ça va pas tourner dans le moteur parce que voilà, il y a trop d'idées, ça va pas passer du tout. Faut trouver une autre astuce, faut contourner. Contrainte de game design, contrainte d'animation, ça va pas passer. Là, on a une espèce de bitos sur le design qui nous permet pas du tout d'animer correctement. Mais c'est aussi nourrissant en fait ces contraintes-là.
Nous en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais j'imagine que c'est un travail de très différent entre bosser pour un artbook, par exemple, avec Jean-Sébastien Rosbach, par exemple, comme tu avais fait sur le Merlin, ou travailler avec 80 designers qui attendent tes directions pour le jeu vidéo, par exemple.
Tout à fait. J'ai des petits soucis avec cette machine crotte.
Bonsoir. Comment vous faites le choix des couleurs ? Est-ce que vous avez des palettes prédéfinies ?
Parfois, là, pas du tout. Donc, je suis embarrassé. Après, oui, c'est une petite réflexion aussi à avoir en amont. Il y a encore une fois la partie technique des systématismes. Le fait de savoir voilà, qu'il y a des palettes qui vont fonctionner les unes les autres. Je ne pense pas être le meilleur théoricien au monde par rapport à ça, puis surtout le meilleur technicien, même, par rapport au fait d'avoir une palette préparée à l'avance, dans laquelle je vais pouvoir aller piocher en fait, des couleurs, et après les agencer...
Alors, tu peux nous parler de ton rythme de travail, par exemple ?
Il est très variable, ou il est devenu très variable. Mais j'ai toujours pas mal de projets sur le feu, et j'essaye toujours d'alterner tous ces projets-là pour pouvoir les mener de front. Et en général, ce que je fais, c'est que je travaille jamais, en fait, ou ça peut m'arriver, en fait, quand c'est vraiment très urgent, travailler sur un seul projet, de me focaliser dessus pendant quelques jours. Mais en général, j'évite et j'essaye toujours de faire... Bah, par exemple, là, je sais pas, admettons, j'aurais une commande comme ça. Eh bien, je m'arrêterai peut-être là et je la reprendrai peut-être le lendemain, une petite heure. Non, je m'arrêterai pas là, en fait, parce que là, c'est pas suffisant. Je m'arrêterai à partir du moment où je commence à sentir un truc et à me dire, ça y est, j'ai résolu le truc, ou j'ai la bonne piste, j'ai la bonne voie. Et que ce soit pour un travail d'illustration, bah, bim, je vais l'enregistrer, je vais le laisser de côté, je vais faire un autre truc l'après-midi pour me rafraîchir, pour être confronté à autre chose. Donc, j'essaie d'alterner à la fois... je sais pas comment dire, différentes sessions de travail pour pas me retrouver en fait le bec dans l'eau, avoir un rendu, une image sur laquelle j'ai pas du tout le bon feeling ou j'ai pas du tout correctement solutionné l'ensemble. C'est un peu foncé hein, l'écran là, par rapport à chez moi. Ah, ça va pas le faire. Contrôle le 7, ça marche pas. Super.
Tu nous as parlé de tes deux machines tout à l'heure, c'est-à-dire que tu en as une donc à domicile, une autre dans un atelier, mais l'atelier en question, ce n'est pas Dontnode en fait. Donc
non.
Tu as trois lieux de travail finalement.
Ouais.
Et alors pourquoi le choix de l'atelier extérieur en fait ?
J'ai travaillé freelance pendant des années et j'étais chez moi et j'allais parfois dans des boîtes à l'occasion. Mais il y a ce côté, en fait, super, pas laborieux, mais le fait de bosser tout seul, pas être confronté avec le monde extérieur et de se retrouver en période de rush, voilà, un album BD à finir, et au secours. À enchaîner les pages et à pas sortir de chez soi pendant 4 jours, avec le petit côté, là, pas sortir de... Enfin, pas avoir d'outils, quelque part, pour sortir le stress et puis la gestion de tout ça, de son système... et d'être toujours immergé dedans où ça devenait vraiment trop pesant. Et puis après, il y a d'autres paramètres qui sont bien plus riches, je trouve. C'est le fait d'être confronté à d'autres personnes, de pouvoir échanger à la machine à café, particulièrement avec des gens qui font des choses, comment dire, dans un domaine un tout petit peu similaire, mais pas forcément exactement le même. Dans le local où je travaille, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des scénaristes, il y a des game designers, il y a des programmeurs, il y a des, enfin, plein de corps de métier. Et je trouve ça toujours enrichissant, ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait de...
Et tu as parlé de bande dessinée. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que tu nous dises si, par exemple, Spawn...
Comment ?
Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un autre Spawn à venir un de ces jours ?
C'est pas d'actualité, il faut jamais dire jamais. C'est pas du tout prévu, je pense que j'ai fait un petit peu pas le tour, mais.
Et tes projets en dehors du jeu vidéo ?
Là, je crois que j'en ai jamais eu autant. Je sais pas pourquoi, je me suis un petit peu énervé tout seul. Donc il y a des projets de commande avec des clients directs, il y a d'autres choses que j'aimerais réaliser entièrement moi, bah, il y a le travail justement comic books, bande dessinée, j'aimerais m'y remettre. Et puis cette fois-ci, en me confrontant à l'écriture, enfin, ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire tout gérer, et pas seulement le fait d'illustrer en fait, un script, mais de le réfléchir et d'en gérer tous les paramètres. J'ai un projet de jeu de plateau, je ne sais pas si je peux en parler, ça j'aimerais bien, mais un truc ludique qui est au tout début. Un projet de figurine en fait, qui est beaucoup, bien avancé avec un studio qui s'appelle Tsume, un studio luxembourgeois là, qui fait des travaux de pas mal de sculptures de licences de franchise. Ils ont fait des choses pour Assassin's Creed, pour Capcom entre autres, et puis pour... d'autres studios, donc ça c'est cool aussi, c'est une belle collaboration qui touche encore au volume.
Bon, ça va peut-être te détendre, mais tu as encore largement le temps, parce que je vois qu'il y en a qui sont installés avec des cacahuètes et des apéricubes, alors tu peux y aller.
Ouais, mais on me met dehors dans moins de 15 minutes. Donc qu'est-ce que je pourrais faire là de... Fantastibulous.
Et la prise en main du numérique, quand tu as commencé, ça s'est fait comment? Comment tu es passé du fait, par exemple, de peindre en trempant tes dreads dans la peinture à l'outil numérique? Comment tu as fait ce bond quantique?
C'est vieux, je me souviens plus exactement. J'ai l'impression que ça s'est fait assez, de façon assez fluide, en fait. C'est juste l'histoire de s'y mettre. Et puis après, on avance petit à petit. Comme je disais tout à l'heure, j'utilisais ça juste en appoint, faire juste la mise en couleur derrière un crayonné que je scannais. Et puis, il arrive un moment en fait où ben, je m'en fiche du crayonné, puis je commence à peindre par-dessus. Je découvre que c'est super plaisant. Et puis, ouais, c'est une espèce de travail progressif. Il n'y a pas eu de réelle révélation... Si, peut-être, enfin pas de réelle révélation, mais il y a le moment en fait où ça commence. C'est à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, il y a le côté, le rapport au plaisir et à ce qu'on en ressort, ce qui s'en dégage. C'est-à-dire en fait, quand on apprend quelque chose de neuf, il y a toujours un moment où c'est laborieux, où c'est pas super jojo, vous avez jamais fait de guitare, vous apprenez de la guitare, il y a une sorte de petite bataille un petit peu à mener. Et arrive le petit moment où on commence à pouvoir en tirer une certaine satisfaction. Et là, du coup, en fait, le travail d'apprentissage ou pour continuer à avancer avec la technique en question, bah, ça change complètement. Enfin, le fait d'en dégager du plaisir, ça change complètement la donne. Et parfois, ça met plus ou moins de temps avant d'arriver à ce moment-là, il me semble.
Alors, vu que tu bosses 15 heures par jour et que tu sors jamais de ton atelier ou ton appartement, comment est-ce que tu vas chercher tes sources et quelles sont tes influences ou tes maîtres à peindre?
Ouais, ce que tu viens de dire, c'est pas exactement la réalité, hein, loin de là. Bah après, je sais pas, c'est une histoire de curiosité, de regarder un petit peu tout ce qui se fait, bah justement d'échanger avec des gens. Moi, souvent, en fait, je me suis aussi rendu compte où c'est arrivé que j'étais un petit peu trop... je pense dans ma bulle, ou pas pas de façon excessive, mais et que c'est toujours agréable de sortir un petit peu, discuter avec quelqu'un d'autre, de regarder ce qui se fait. Je sais pas. Maintenant, on a un outil qui s'appelle Internet, qui est assez fabuleux, où on a accès à des informations qu'il faut trier, mais ou en tout cas des références images assez immédiates. Ça me fait penser. J'ai eu une discussion. Justement sur ce qu'on appelle dans les boîtes en fait, dans n'importe quelle industrie, la phase nécessaire en fait de recherche et développement, R&D, le fait d'avancer pour rester compétitif. Et en fait, pareil, en étant illustrateur, il y a la même, je pense qu'il y a le même syndrome, que ce soit au niveau de la technique ou au niveau des idées, c'est le fait de rester ouvert, de tenter les choses. Alors moi, je me suis rendu compte, on est tous différents, mais qu'un des meilleurs moyens pour moi d'avancer, de tenter les choses, bah, c'est quand je travaillais pas pour des clients. Ou alors pour des clients qui étaient vraiment peu exigeants ou peu dirigistes plutôt, et qui me laissaient une certaine marge de manœuvre, ou des commandes que j'ai pu faire en me disant ou en dialoguant et en me disant, en prévenant que j'allais tenter quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'ils s'attendent pas à, enfin, que mon client s'attend pas à quelque chose que je fais habituellement. Et des fois, c'est les moments où je me surprends le plus, où je me sens plus, riche quelque part. Le fait d'avoir développé une idée qui me semble intéressante.
Là, on te voit travailler en peinture directe. Quand tu travailles en bande dessinée, en fait, est-ce que tu as une approche plus graphique avec une construction au trait noir et ensuite une mise en couleur plus classique ?
Ça m'est arrivé, oui, même de faire des pages BD. Je suis pas bédéaste de profession, je fais pas que ça, mais j'ai dû réaliser plus de... j'avais compté l'équivalent peut-être de 4 albums franco-belges, si je mets bout à bout, en fait, toutes les pages que j'ai fait ici et là pour un album ici, 10 pages là, 10 pages là, voilà. Donc ça représente quand même une certaine quantité. Et après, en fait, sur chaque projet, j'ai essayé d'avoir des techniques, différentes. Et du coup, ouais, j'ai fait aussi un certain volume, en fait, de pages en traditionnel, c'est-à-dire avec un crayonné, un vrai ancrage à la table lumineuse sur du papier. J'aimerais bien d'ailleurs y revenir, mais c'est toujours un petit peu... délicat. Peut-être que sur un de mes prochains projets, je vais pouvoir faire ça, ou quitte à alterner dessin digital Un truc intéressant aussi avec l'outil digital, justement, c'est cette souplesse, cette rapidité, en fait, qui permet de proposer un maximum de choses en très peu de temps. Là, je m'y suis peut-être mal pris. Il y a le fait qu'on discute, mais c'est peut-être bien mieux que seulement que je fasse un joli dessin. Le dessin, c'est pas le meilleur que j'ai fait de toute ma vie. Et zut, oui, donc c'était le... Le truc cool avec l'outil numérique, c'est le fait d'être capable, en fait, de produire un visuel, en fait, extrêmement vite, poser parfois des informations de lumière, de couleurs, que ce soit pour du storyboard ou, admettons, je sais pas, je discute avec quelqu'un, un autre créateur à côté de moi et tout, et le fait de pouvoir mettre en forme, en fait, très vite, avec plus de paramètres inclus que seulement un dessin crayonné sur un carnet.
Bonsoir.
Bonsoir.
Justement, en rebondissant sur votre phrase, est-ce qu'il n'y a pas des fois la peur de passer à côté d'idées qu'on a commencé à développer et par le biais du numérique, justement, et de la facilité qu'on a de changer tout un tas de petits détails, d'en zapper certains qui auraient pu être importants, voire décisif dans l'évolution d'un personnage ou d'un accessoire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Je ne sais pas exactement, parce que quelle serait la différence avec le traditionnel ?
Avec le traditionnel, on se concentre sur un personnage, sur les accessoires qu'on lui fait, sur l'ensemble de son caractère. Avec le numérique, on a tendance, pendant une peinture numérique, à pouvoir tout changer d'un coup. En quelques traits, et est-ce que des fois, enfin, il n'y a pas la peur en tant que directeur artistique ou en tant que créateur de justement passer à côté de choses qu'on aura dû développer ?
Moi, je dirais que c'est l'inverse plutôt. Enfin, vu que ça offre plus de souplesse, après, c'est une histoire de choix, de goût artistique et puis de bon goût, du jot, de talent, de savoir-faire, de technique. Je reviens encore à cette dimension justement pour venir au fait que c'est pas seulement le fait de peindre avec des pinceaux comme ça. Après, si tu es structuré aussi, même dans la technique, tu peux te dire tu peux faire des sauvegardes, c'est-à-dire que tu peux enregistrer toutes les phases qui te semblent importantes et du coup continuer à avancer, revenir en arrière et voir que ce soit sur un calque précédent ou un ancien fichier, qu'en fait la version précédente était mieux. Mais tu ne le savais pas tant que tu n'avais pas essayé d'aller plus loin et de continuer dans la voie sur laquelle tu t'étais lancé juste avant. Donc ouais, je le vois pas trop comme ça. Je pense pas que ce soit quelque chose de limitant quelque part.
Est-ce que le fait de pouvoir effacer dans l'historique, par exemple, te permet d'être un petit peu plus libre dans tes essais ?
Bah ouais, par exemple. Enfin, moi, je le sens vraiment pas comme une contrainte. Il y a ce petit côté-ci. Le seul point, c'est tellement de choses à faire, tellement de choses possibles qu'on peut vite arriver à faire... n'importe quoi. Mais comme dirait, comment il s'appelle, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et pardon, j'ai perdu le fil. Je vais pas y arriver. Je m'excuse, je crois que je suis pas allé au bout de la réponse.
Non, mais on te laisse dessiner tranquille.
Un petit exemple, là, je sais pas exactement ce que je fais, tu vois, j'essaie deux trois trucs. Enfin, si, je sais à peu près ce que je fais si je passe des masques comme ça. Là, ça me permet d'essayer rapidement en fait différentes variations. Donc là, tu vois, c'est un mélange de. J'ai une petite intention et après, il y a peut-être des accidents qui peuvent se créer. Tiens, bim, qu'est-ce que ça donnerait finalement avec du vert fluo ? Juste pour contredire, pour illustrer ce que je voulais dire, voilà, je vais rester là-dessus. Sur du vert. Ah non, c'est pas beau. Tant pis.
Est-ce que tu as encore le temps de travailler sur des projets personnels ?
J'y ai énormément de mal, mais les projets dont je parlais, soit bande dessinée, tout ça, c'est les projets personnels, puisque j'ai pas envie d'avoir d'éditeur derrière moi tout de suite, quoi. J'ai envie de prendre le temps de les faire moi. Mais c'est effrayant. C'est paradoxal, en fait. Il y a le côté... parfois, le fait d'avoir une commande, c'est bourré de contraintes. Et c'est complexe à gérer. Et par contre, à contrario, le fait d'initier des projets perso, sans éditeur, sans rien derrière, bah, c'est toujours super dur à mettre en route. Hop, rapido, des petits réglages sur la nappe, j'essaye. Tu vois, par exemple, juste cet outil-là, là, c'est un outil de correction où on procède plus comme de la sculpture, comme si je travaillais au doigt, en fait, sur de la glaise pour changer les formes, les proportions. Et après, c'est pas cet outil-là non plus qui fait toute la force, on va dire, l'imagerie digitale et tout. C'est juste un outil comme un autre. J'aurais plus de difficultés à faire la même chose, à porter les mêmes réglages en fait, en traditionnel. C'est-à-dire, si j'ai posé mon dessin et que je dois revenir sur des éléments comme ça, ça serait beaucoup plus délicat. Mais d'un autre côté aussi, je peux faire tout et n'importe quoi. Donc à moi de faire les bons choix.
Attends, encore 5 petites minutes pour faire tout et n'importe quoi. Et puis après, on va inviter tes collègues à monter sur scène.
Ouais, je pense pas que je vais faire de miracle là.
Non, mais ce sera au moins effectivement le fait de te voir travailler. Je pense que ça reste quand même un moment exceptionnel.
Bon, la machine est folle. Plus rien ne fonctionne. Qu'est-ce qui se passe-t-il ?
Si vous avez envie de poser quelques dernières questions sur le dessin, Photoshop ou la coupe d'Alexis, allez-y, parce qu'après nous allons passer plus à une problématique concernant Dontnod et Remember Me. Donc profitez-en.
Je vais m'arrêter là, puis on va passer à la suite. Hein.
Merci Alexis pour cette heure passée en ta compagnie et avec Photoshop, même si je reste persuadé que Photoshop restera un mystère pour beaucoup d'entre nous. Nous allons accueillir Jean-Maxime Maurice, donc, qui est réalisateur de Remember Me, avec Alexis Briclot sur scène, pour avoir une heure et demie de présentation concernant le jeu lui-même. Et ensuite, on aura droit à toute une volée de questions sur leur travail et leur collaboration. Donc deux petites secondes, le temps de prendre la parole et le temps de pour Alexis de boire un petit peu d'eau, je pense.
Ouais.